Nous avons vu que la diversité fait que ce n'est pas toujours facile d'être unis. On l'a vu, on l'a entendu. On a vu qu'il fallait élargir le cadre. Le thème aujourd'hui, c'est l'unité. Alors c'est facile de dire qu'il faut être uni, mais c'est plus difficile de l'être réellement, sans arrière-pensée, sans arrière-plan. Et cela fait penser à un bouquet de fleurs. Lorsque nous voyons un gros bouquet de fleurs, nous voyons que les fleurs sont différentes. Il y a des rouges, il y a des bleus, des jaunes, des vertes. Et il faut les arranger pour que chacune trouve sa place. Et c'est la diversité qui fait la beauté de l'œil. Et on ne voit pas qu'une fleur dise à l'autre « Pousse-toi, tu me fais de l'ombre ». Ou tu m'agaces, je voudrais que tu sois derrière moi. Bien, il est dit dans le texte que nous avons lu, au verset 13, « Nous sommes tous abreuvés d'un seul esprit. » Un seul, cela veut dire qu'il n'y en a qu'un, il n'y en a pas d'autre. Seulement par l'Esprit du Seigneur, cette union est possible. Nous avons entendu aussi dans le texte que le Seigneur est la tête, et c'est lui qui gouverne les différents membres. Et que le bras ne peut pas dire au pied, j'ai pas besoin de toi, ou vice-versa, que l'oreille ne peut pas dire à l'œil, mais qu'est-ce que tu fais là? Chacun des membres est utile, je dirais indispensable. Et dans l'Église, dans nos communautés, il faut que chacun trouve sa place. C'est le Seigneur donc qui dirige, c'est lui la tête du corps. Et au verset 25, « Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. » Alors là, ça devient peut-être un petit peu plus difficile. Il faut avoir soin les uns des autres. Il faut avoir une bonne dose d'amour divin, pour prendre soin les uns des autres. Et nous ne pouvons pas être unis si nous ne prenons pas soin les uns des autres. Parce qu'il est facile de dire que, oh, mon frère, ma sœur, je t'aime. Sur les lèvres, tant que c'est sur les lèvres, ça va bien, mais quand ça rentre dans la pratique, c'est peut-être plus difficile. Et il nous faut cet amour divin. L'amour selon Christ est patient, dit Paul. Il n'est pas envieux. Il supporte tout. L'amour selon Christ ne s'irrite pas. Là, les messieurs, nous avons du travail, n'est-ce pas? Pour parler à notre épouse, à nos enfants, sur un ton qui ne soit pas cassant, irrité, parce que nous transmettons ce que nous sommes aux autres. Comment puis-je aimer l'autre? L'autre, méprisable à mes yeux. L'autre qui m'agace lorsqu'il ouvre la bouche. Jésus s'est abaissé. Jésus a pris la place d'un esclave. Il est venu pour servir. Il n'est pas venu pour être servi. Et cet amour divin, il l'a donné aux pauvres, aux faibles, pour les relever. Parce que c'est l'amour de Christ qui peut nous relever. Et nous, nous voulons être ses disciples. Les disciples ne sont-ils pas unis au Maître? Sans cette unité avec lui, qui est le chef de la foi, est-il possible d'être réellement unis? Sans l'adhésion totale à sa parole, qu'est-ce qui fait que nous sommes là aujourd'hui? Représentant diverses églises, c'est sa parole, c'est lui. Nous sommes unis dans la parole les uns aux autres, en Christ. Si nous sommes abreuvés du même esprit, il est dit dans le texte que nous avons lu. Il nous faut donc revenir à Christ pour consolider nos liens. La foi est un lien solide qui nous unit les uns aux autres. Mais si notre unité est basée seulement sur notre convivialité, sur notre entente, notre amitié, notre sympathie, nos sentiments, ce sont de bonnes choses. Elles sont humaines et indispensables. Mais s'il n'y a pas l'amour de Christ, alors nous allons être confrontés très rapidement à des divisions, à des défaites. Christ est notre trésor, dit la Bible. Où est ton trésor? Où est notre force, si ce n'est pas en lui? La parole dit dans Matthieu 6, 19, « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Et précisément, le Seigneur veut mon cœur. Il veut mon cœur d'abord, et ensuite mes œuvres. Le dernier des prophètes, Malachie, après qui Dieu va laisser 4 siècles de silence. On peut donc supposer qu'il a donné une parole importante à Israël. Mais elle n'est pas non plus que pour Israël, à l'époque d'Israël, elle est aussi pour nous. Et il dit la chose suivante, Malachie 3, « Vous me trompez. » Quoi ? Moi, je trompe Dieu ? Mais non, je prie tous les jours. Je vais au culte régulièrement, je fais mon culte familial. Moi, je trompe Dieu. Oui, il dit, vous me trompez. Je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail. Vous le lirez. S'il peut me permettre de vous donner un devoir. Et il dit ensuite, revenez à moi. Et je reviendrai à vous. J'aime ce « et ». Revenez à moi et je reviendrai à vous. Il est bon de se poser la question, où ai-je trompé Dieu? En quoi ai-je trompé Dieu? Croyons-nous à ses promesses? Est-ce que nous sommes remplis d'espérance? Revenez à moi et je reviendrai à vous. Et Dieu ne ment pas. La parole ne ment pas. Si nous mettons cette parole en pratique dans nos vies, nous allons voir des choses. Au verset 10, il dit la suite, « Mettez-moi donc de la sorte à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Quand je lis ces paroles, je pense qu'elles se passent de commentaires. Il dit « pour vous, sur vous, donc ça vient du ciel, sur nous. » Il va ouvrir les écluses des cieux. Quelle promesse, quelle espérance. N'est-ce pas la bénédiction de l'Éternel qui enrichit? Les lieux secs vont reverdir. Les lieux secs dans ma vie, pas uniquement dans le désert. Qu'est-ce qui est aride en moi? Qu'est-ce qui est sec? Avec mon conjoint, avec mes enfants, avec mon prochain, dans mes relations, qu'est-ce qui est sec, qui ne porte pas de fruits? La suspicion, le doute. Au sujet du doute et de la suspicion, je vous raconte une histoire qui s'est passée réellement. Ça s'est passé il y a bien des années. C'était en Amérique. Deux frères avaient un grand commerce qui marchait très bien. Et puis un jour, il y avait des clients, et voilà que l'un d'eux pose un billet de 1 dollar ou 10 dollars, je ne sais plus, sur le comptoir. Il tourne le dos et il revient. Le billet avait disparu. Et il a accusé son frère. Son frère, dans la chair. Et depuis ce jour-là, le commerce n'a plus fonctionné. Celui qui a accusé l'autre a décidé de séparer le commerce. Donc, dans le sens de la longueur, on a fait un mur au milieu. Et chacun a géré ses affaires. Il y avait une entrée particulière pour chacun des deux commerces. Et pendant 20 ans, tenez-vous bien, pendant 20 ans, ces deux personnes ne se sont pas ouvert la bouche. Jusqu'au jour où un homme se présente. Je ne pense pas qu'il était envoyé du diable, celui-là. Cet homme se présente et il dit, écoutez, il rentre dans le commerce, justement, du côté de celui qui était accusé. Et il dit, écoutez, je suis désolé. Il y a 20 ans, je suis passé chez vous. Et j'ai rencontré Dieu depuis. Et je veux mettre ma vie au clair. Je viens vous rendre ce billet de 1 ou 10 dollars, je ne sais plus. Alors, le commerçant qui était là a dit, mais écoutez, vous ne voulez pas passer à la porte à côté et vous allez le rendre, vous allez expliquer la situation à mon frère. Je ne vous dis pas la suite. Voyez-vous, pendant 20 ans, on a construit un mur sur une suspicion. Que Dieu nous fasse grâce. Si nous faisons l'unité avec Dieu, notre unité sera cimentée par l'Esprit qui nous abreuve. C'est le texte qui le dit. 2 Corinthiens 6 dit, et je vais terminer, « Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Frères et sœurs, est-ce que nous portons en nous cette parole de la réconciliation avec notre conjoint, avec nos enfants, dans l'église, à l'extérieur? Sommes-nous réconciliés? Sommes-nous en paix avec tout le monde? Si oui, notre union sera durable. Mais pour cela, appuyons-nous sur Jésus-Christ, sa parole et ses promesses. Notre unité se fera, notre unité se verra. Notre unité va se propager comme un feu. Cet hiver, il a neigé beaucoup. Et j'ai constaté une chose. Devant notre terrasse, nous avons une grosse herbe de pampa. Vous savez, ces grands plumeaux. Et j'ai regardé avec la neige et j'ai constaté quelque chose. C'est que tous ceux qui étaient autour, tous ces roseaux se sont cassés, l'un après l'autre, avec le poids de la neige. Et j'ai constaté une chose. C'est qu'au centre de cette plante, il y avait 3 roseaux au milieu, très proches l'un de l'autre. Et ces 3 n'ont pas cassé. Vous voyez, le Seigneur peut nous parler par des choses naturelles. La nature peut nous instruire sur beaucoup de choses. Ces 3 qui étaient unis, proches l'un de l'autre, ont résisté à la tempête, au froid, alors qu'ils avaient le même climat que les autres. Par son esprit, le Seigneur peut faire bien des choses en nous. Et c'est sur lui que nous voulons fonder notre espérance. Merci beaucoup.
Alors j'aimerais poursuivre, alors je précise qui est ce je. Charlotte Gérard, je suis pasteur de l'Église réformée. J'aimerais donc continuer les propos d'André par une réflexion qui m'a été offerte par un protestant, aujourd'hui décédé, à propos de l'unité, ou plutôt à propos de la diversité de nos églises. Ce monsieur était d'un âge avancé. Il avait fréquenté en région parisienne une église protestante, arrivé sur Annecy une autre, et enfin il était venu à l'église réformée. Une sagesse se dégageait de son visage, toujours souriant. Son regard était illuminé, malgré le fait qu'il n'y voyait plus. Un jour, je l'interrogeais sur son parcours dans toutes ces églises protestantes. Et il me répond, « Vous savez, quand je serai au ciel, face à face avec le Dieu de Jésus-Christ, croyez-vous qu'il va me demander de quelle église je viens? Dis-moi, viens-tu de l'église Abba, du plein évangile ou peut-être de l'église du Cèdre, adventiste, baptiste ou réformée? Ou pentecôtiste, assemblée de Dieu, orthodoxe, catholique? Non, bien sûr. En revanche, Jésus-Christ me demandera et sondera mon cœur. As-tu cru en moi? As-tu partagé la bonne nouvelle de mon amour avec les autres? Voilà. Pour moi, tout est là. Alors je pourrais m'arrêter et laisser place à la suite du culte. Mais l'équipe de préparation, et peut-être vous aussi, attend de moi un peu plus. Alors je vais poursuivre. Dans ce chapitre 12 que nous avons vu jouer, que nous avons entendu lire de la lettre de Paul aux Corinthiens, Paul nous parle de tous ces dons différents qui nous habitent et il ajoute que c'est le même esprit qui nous les donne. Chaque église que nous représentons ici et chacun de nous individuellement a des dons différents. Nous l'avons vu ce matin. Une palette de dons dans la musique, dans la parole, dans le théâtre, dans la technique. Et voilà où était notre volonté pour ce culte commun. C'était de partager et de montrer nos richesses mutuelles. Alors, nos dons sont différents, et parfois très différents, parfois peut-être aussi trop différents. Et ils en deviennent dérangeants, on l'a dit déjà. Mais tous sont des dons de l'Esprit Saint, et Paul ajoute, pour le bien de tous. C'est bien dans une optique de bonheur que tous ces dons nous sont donnés dans leur diversité. Et en cet esprit, avec cette parole, comme le disait André, nous nous y retrouvons. Car c'est une parole unique, celle de Jésus-Christ, qui nous fait tous vivre. Et c'est celle-là encore qui nous rassemble ce matin. Paul, un peu plus loin dans le texte, dit que nous sommes unis car nous avons reçu le même baptême. Bien. Alors certains parmi vous, si je demandais à chacun de me raconter son baptême, diraient, moi c'était un baptême, j'étais d'âge adulte, par immersion totale. D'autres disaient, ben moi j'étais tout petit, je ne me rappelle même plus, quelques gouttes d'eau. Alors on pourrait se demander, mais est-ce vraiment le même baptême? Bien oui. La Bible est claire là-dessus. Il n'y a qu'un seul baptême. Et celui d'abord qui a baptisé avec de l'eau, c'était Jean-Baptiste. Et lui-même dit, celui qui vient après moi vous baptisera avec l'Esprit. C'est ce que Paul nous redit ici. Quel que soit aujourd'hui le rite de baptême que nous avons eu dans notre communauté, nous croyons en vérité que nous sommes unis par ce même baptême, car c'était un baptême d'esprit, qui encore une fois, comme les dons que nous avons, vient d'un seul et même esprit, celui de Dieu notre Père en Jésus-Christ. Et c'est ainsi que nous savons, nous avons cette certitude que nous formons un seul corps. Alors on l'a bien vu hein, avec le sketch. Cette réalité de former un corps, quelle est difficile. Quelle est difficile à vivre dans le concret. Et même à croire parfois. Notre texte nous dit, le pied peut dire, ben moi je ne suis pas une main, donc je ne fais pas partie de ce corps. Et nous nous disons, oh là là, mais qu'il est éloigné de moi ce bras qui se lève quand on chante, alors que moi mon esprit a besoin de recueillement. Un autre peut dire, mais qu'elle est éloignée de moi cette bouche qui exprime des choses incompréhensibles alors que j'ai l'habitude d'étudier et de réfléchir au texte. Ou encore, que ces chrétiens sont ici austères avec leur orgue alors que moi, louer Dieu, c'est une joie, je veux l'exprimer de tout mon être et de tout mon corps. Alors oui, il ne faut pas le nier, c'est vrai. Pour toutes ces raisons, pour tous ces gouffres qui nous paraissent parfois infranchissables, qu'il est difficile de croire, comme Paul nous le dit, que nous formons un seul et même corps par l'Esprit Saint. Et pourtant, cela est vrai. Vrai dans le sens de vérité de foi en Jésus-Christ. Mais bien sûr, nous sommes humains. Nous avons besoin de cadres. Rond, rectangulaire, carré, grand, petit. Nous avons besoin d'églises qui nous accueillent, d'habitude. Et quand cela change, cela nous perturbe. L'important, je crois surtout, est de nous garder du jugement. Mais je crois aussi que nous avons besoin de ces différences, puisque nos besoins sont différents. Vous savez, dans les évangiles, comment se comportait Jésus-Christ? Est-ce qu'il a érigé un lieu unique avec une forme de culte bien particulière? Est-ce qu'il a demandé à chacun de venir le retrouver là où il était, comme il l'avait choisi? Bien sûr que non. Que faisait-il? Il allait à la rencontre de chacun, chacun là où il était, dans ses particularités, dans les synagogues, dans les rues, dans le désert. Et à chacun, il disait une parole différente qui pouvait le toucher avec un langage différent. Et pourtant, c'était le même homme, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, et aujourd'hui, il est notre Seigneur. Vous savez ce qui m'a frappé dans le bon sens du terme? Quand nous avons préparé ce culte, et comme l'a dit déjà, comme l'ont dit plusieurs, ça n'a pas été simple, bien sûr. Avec tous les responsables d'église, on marchait un peu sur des œufs. Qu'est-ce que vous mettez dans vos cultes? Qu'est-ce que vous mettez pas? Comment vous sentiriez-vous le plus à l'aise ou le moins mal à l'aise? Eh bien, une chose, une seule, dans tout le culte, a soulevé une nette approbation enthousiaste de tous. Laquelle, d'après vous? Quelle partie du culte, sur quelle partie nous nous retrouvons? Sur le message, sur la prédication. Et là, j'avoue que j'étais heureuse d'être protestante, et je me suis dit, oui, c'est ça, on est tous protestants autour de cette table. Voilà, pour les protestants, c'est ça, le cœur de la vie de chrétien, c'est la parole de Dieu. Et là, tout le monde a dit, oui, s'il n'y a pas de message, non, bien sûr, c'est important, il faut un message. Voilà, ça c'est un signe, quelque chose qui nous rassemble fortement. La Bible, c'est le centre de nos vies, le centre de nos cultes. Et c'est ce qu'André nous disait tout à l'heure, nous sommes unis par la parole de Dieu. Alors finalement, est-ce que nous pourrions dire aujourd'hui, nous dire autre chose entre églises que ce que l'œil dit à la main dans notre texte, c'est-à-dire « je n'ai pas besoin de toi » Eh bien, au risque de paraître un peu trop optimiste, moi je le crois. Je le crois profondément, je crois que c'est la conviction de toute l'équipe des responsables qui s'est lancée dans ce pari un peu fou. Mais l'évangile n'est-il pas folie pour celui qui croit ? Ce pari un peu fou de nous rassembler dans un même lieu pour célébrer notre Seigneur. Et je crois que vous le croyez aussi, vous tous qui êtes venus ce matin, qui avez fait l'effort d'entrer dans ce lieu inconnu peut-être, avec des personnes inconnues, pour célébrer ensemble notre Seigneur, parce que votre foi a été plus forte que vos doutes. Alors je le crois, nous pouvons dire en vérité, j'ai besoin de toi. Toi, communauté différente de la mienne, apprends-moi ce que je ne sais pas. Montre-moi comment tu loues notre Seigneur. Et laisse-moi te montrer comment moi, je vis ma foi. Partageons nos richesses. Ouvrons nos cœurs pour témoigner ensemble de ce qui nous rend fort. Je parlais en début de semaine avec un paroissien réformé pour qui l'unité des chrétiens est très importante. Et nous disions que déjà, si nous arrivions à nous connaître et à nous respecter, nous aurions gagné. Et je vous le dis, je le crois, avec tout ce que nous vivons en ce moment sur ce bassin annécien, nous avons commencé à marcher sur ce chemin, avec l'aide de Jésus-Christ. Paul, enfin, et je termine, parle de souffrance ou de joie dans notre texte. Vous savez, quand toutes les parties du corps, quand il y en a une qui souffre ou une qui se réjouit, ce matin, deux de nos 8 églises de notre alliance n'ont pas souhaité se joindre à nous. Car nous ont-elles dit que ce n'était pas leur sensibilité. Eh bien, avec toute la joie d'être 6 communautés ce matin, c'est aussi une souffrance d'en savoir deux loin de nous. Et de même, quand une communauté parmi nous est à l'honneur, et je pense à l'arrivée l'année dernière d'un pasteur à l'église baptiste, cela a été une vraie joie pour tous, pour toute notre alliance, pour cette communauté. Voilà ce qu'est un corps uni par l'Esprit. Oui, nous dit Paul, il y a des dons différents, mais c'est le même Esprit qui les donne. Il y a des façons différentes de servir, mais on sert le même Seigneur. Il y a des activités différentes, mais c'est le même Dieu qui les produit, toutes en tous. Chacun reçoit le don de montrer la puissance de l'Esprit Saint, et cela pour le bien de tous. Tous, nous avons reçu le même baptême dans un seul esprit pour former un seul corps. Nous avons tous bu à la source de cet esprit unique. Alors l'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », la tête ne peut pas dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Il n'y a pas de division dans les corps. Au contraire, toutes ces parties prennent soin les unes des autres. Et si une partie souffre, toutes les autres souffrent avec elle. Si une partie est à l'honneur, toutes les autres partagent sa joie. La fin du chapitre nous parle d'un chemin meilleur que les autres, ce chemin qui est l'amour. André en a parlé. C'est l'amour de Dieu pour nous, cet amour parfait, mais cela peut être aussi l'amour fraternel, l'amour que nous pouvons avoir les uns avec les autres grâce à Jésus-Christ. Alors notre prière ce matin est que nous soyons les uns envers les autres conduits en esprit vers cet amour qui ne se méfie pas, qui ne rejette pas, qui ne juge pas, mais qui est patient, qui rend service, qui croit tout et qui espère tout. Seigneur Jésus-Christ, que nous formions enfin un seul et même corps. Entends notre prière, toi le Tout-Puissant.